Il est 13h sur France Inter. Et Anaïs Feugat nous présente le journal. Bonjour.
Bonjour à tous. C'est un palmarès étourdissant que le PSG offre à ses supporters en plein milieu de l'été. Lionel Messi sextuple le ballon d'or, 474 buts avec le Barça, signe dans le club de foot parisien. Coup de maître du PSG qui va éclairer tout le championnat de Ligue 1, les précisions dès le début de ce journal. La quatrième vague de Covid se prend les pieds dans les Antilles. Explosion des cas en Guadeloupe, taux d'incidence vertigineux en Martinique où la population est trois fois moins vaccinée qu'en métropole. La préfecture met en place un confinement strict. Des médecins, des infirmières partent de Paris pour aider dans les hôpitaux asphyxiés. Les touristes sont appelés à quitter le territoire. Dans ce journal aussi, le recueillement en Vendée après le meurtre du père Olivier Maire. Nous serons à Saint-Laurent-sur-Sèvre. L'Australie qui refuse de faire mieux pour le climat. Et la planète Vénus qui reçoit cet après-midi la visite d'une sonde spatiale.
France Inter.
Cette fois, c'est la bonne. Les supporters du PSG qui, depuis dimanche, font le pied de grue devant l'aéroport du Bourget vont s'en mettre plein les yeux. Lionel Messi, 34 ans, va atterrir cet après-midi à Paris. Bonjour Nicolas Perronnet.
Bonjour Anaïs.
L'ex-joueur de Barcelone vient donc de signer un accord avec le club de football de la capitale.
Oui, le feuilleton Messi aura donc duré 5 jours depuis l'annonce du départ de Lionel Messi de son club de toujours, le FC Barcelone, incapable de le conserver. 5 jours interminables qui se conclut donc par ces mots du club parisien il y a à peine une heure. Accord total entre le PSG et la superstar du football mondial. Lionel Messi, c'est une réalité, va donc s'engager à Paris. Son avion est attendu dans la journée dans la capitale pour la plus grande joie, évidemment, vous l'avez dit, des supporters qui depuis 48 heures maintenant se réunissent à l'aéroport du Bourget au Parc des Princes pour l'accueillir, pour tenter de l'apercevoir. Leur patience est donc récompensée.
Oui, les Parisiens, un fou de joie. Il faut dire que c'est un coup vraiment exceptionnel et même au-delà du club.
Oui, pour le PSG, évidemment. Pour la Ligue 1 aussi, Lionel Messi, c'est 6 ballons d'or, 4 Ligues des Champions, des statistiques hors normes, style unique. L'Argentin est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de tous les temps. C'est le début d'une folle aventure pour Paris qui va donc, après avoir déjà réussi à attirer de nombreuses stars depuis 10 ans, passer un nouveau cap. Eric Rabé-Sandratana, l'ancien défenseur du PSG, l'un des consultants football de Radio France.
Je pense que le Paris Saint-Germain passe dans une autre dimension encore. Alors, on avait déjà passé un cap avec Neymar, forcément. Mais là, avec Messi, qui est l'un des deux meilleurs joueurs au monde, on est sur une autre planète. C'est vraiment quelqu'un qui représente le football, qui représente sa génération. Il aura marqué sa génération avec Ronaldo. La chance de l'avoir au Paris Saint-Germain, elle est incroyable.
Voilà, il reste encore, Anaïs, beaucoup de questions dont on connaîtra les réponses dans les prochaines heures, à commencer par la durée du contrat et son montant.
Merci Nicolas Perronnet. Ça va se bousculer, évidemment, dans les tribunes de la Ligue 1. Nicolas Perronnet du service des sports de Radio France. Plage fermée, touristes indésirables, la Martinique se barricade face au rebond de l'épidémie de coronavirus. L'annonce a été faite hier soir par le préfet. Après plusieurs jours de couvre-feu, l'île entre dans une seconde phase de confinement. Fermeture de tous les commerces, sauf les commerces alimentaires et les pharmacies. Fermeture des hôtels et des locations saisonnières, sauf pour accueillir des professionnels et des résidents locaux. Télétravail pour les entreprises et les administrations et pas le droit de s'éloigner à plus d'un kilomètre de chez soi. Mesure drastique car tous les indicateurs s'envolent. Hélène Chevalier, la situation sanitaire en Martinique est très dégradée.
Oui, avec une incidence extrêmement élevée, le taux de cas positifs pour 100 000 habitants est toujours au-dessus de 1000 et ce depuis maintenant presque 3 semaines, alors que le CHU de Fort-de-France est lui déjà totalement saturé. Situation catastrophique avec près de 60 patients en réanimation, c'est 30 à 35 de plus que la capacité de l'établissement. La moitié de l'hôpital est déjà dédiée aux patients Covid et il faut en plus faire face à une trentaine d'admissions supplémentaires chaque jour. Une situation tellement grave que les soignants n'ont d'autre choix que de faire du tri, déplore Benjamin Garel, le directeur général du CHU de Martinique, au micro de France Info.
Il y a à peu près la moitié des patients qui, dans les précédentes vagues, auraient relevé de la réanimation. Et aujourd'hui, on est incapable de les prendre en réanimation. Ce qui enlève autant d'énergie aux soignants, c'est qu'ils sont obligés de choisir. Et là, tous les jours, on travaille avec un comité d'éthique pour faire ces choix de la manière la plus humaine possible. Mais avec une saturation, on a des gens qui vont très mal, qui devraient être pris en réanimation et on n'a pas de place pour les prendre.
Un service de réanimation saturé où plus du tiers des patients sont très jeunes, entre 19 et 35 ans. Habituellement, un infirmier s'y occupe de 2 patients, là c'est 4. Et si les renforts envoyés de métropole cet après-midi vont permettre d'ouvrir 5 lits supplémentaires en soins intensifs, pour le directeur du CHU, la situation est telle que cela ne suffira pas. La population est ici très peu vaccinée, seulement un quart des plus de 12 ans ont reçu une dose contre 3/4 au niveau national.
Et pour aider les hôpitaux des Antilles, 2 vols partent de Paris cet après-midi avec des dizaines de soignants. L'un pour la Martinique, l'autre pour la Guadeloupe où la situation est également compliquée avec une explosion des cas. Au CHU de Saint-Étienne, 6 soignants font partie du voyage. Emeline Rochdy de France Bleu Saint-Étienne-Loire vient de joindre le docteur Amandine Gagneux-Brugnon, infectiologue. Elle est en route pour rejoindre l'aéroport.
Je garde un souvenir, on va dire, ému de la deuxième vague en région stéphanoise. On avait des taux d'incidence qui étaient relativement comparables à ce qui se passe en Martinique et en Guadeloupe à l'heure actuelle et où on avait dû reconstruire vraiment et réorganiser complètement l'hôpital en quelques jours et où la solidarité entre soignants avait vraiment été quelque chose qui m'avait marqué. Et l'idée, c'est de pouvoir participer à cet élan de solidarité parce que déjà, on sait que dans les territoires d'outre-mer, les conditions, on va dire, d'effectifs médicaux et paramédicaux sont parfois un petit peu plus compliquées qu'en métropole. Donc, ce qui a été difficile pour nous à l'automne dernier doit l'être encore plus pour eux à l'heure actuelle.
Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, est attendu aux Antilles. D'abord la Guadeloupe dès ce soir, puis la Martinique jeudi. Visite de crise en compagnie du ministre de la Santé. En attendant, c'est l'heure de boucler les valises pour les touristes invités par le préfet à mettre fin à leur voyage, sans date de départ impérative toutefois. Alors comment ce rapatriement qui n'en est pas un s'organise-t-il ? Eh bien en toute tranquillité, répond Jean-Pierre Masse, le président des entreprises du voyage qui regroupe des dizaines d'agences de voyage.
Les touristes qui étaient en Martinique sont déjà rentrés de Martinique, notamment lorsqu'il y a eu le premier confinement. Le confinement n'est pas compatible avec le tourisme, les hôtels fermés ou ont fermé, le Club Med a fermé par exemple. Et donc il reste actuellement peu de touristes en Martinique et ils vont rentrer avec les vols réguliers et éventuellement les vols supplémentaires que vont mettre Air France, Air Caraïbes et Corsair, donc les 3 compagnies qui desservent la Martinique. Si le touriste qui est encore en Martinique achetait un billet d'avion et hôtel dans une agence de voyage, c'est l'agence de voyage qui s'occupe de son rapatriement. Le voyageur n'a pas à payer de supplément. S'il a organisé seul ses vacances, il faut qu'il se débrouille avec la compagnie aérienne pour soit que son billet soit accepté, le billet qu'il avait soit modifié, soit qu'il soit modifié avec un supplément de prix, mais qui ne va pas être très élevé.
Jean-Pierre Masse avec Marianne Naquet. Les magasins de fournitures scolaires sont eux aussi fermés pour la rentrée. Il faudra attendre que la situation sanitaire s'améliore. Si la situation tout court ne dégénère pas, pour ne rien arranger, la saison des ouragans dans l'Atlantique couvre un cyclone qui pourrait bien passer par les Antilles. En Polynésie, les habitants, là aussi, ne se sortent pas de l'épidémie. Couvre-feu annoncé pour demain, le reconfinement n'est pas très loin. La Polynésie, déjà soumise à des restrictions depuis un mois. Quant au pass sanitaire, il reste un point de crispation aux Antilles où les manifestations anti-pass ont rassemblé beaucoup de monde ces derniers jours, en particulier en Guadeloupe. À Paris ce matin, des personnels des hôpitaux publics se sont rassemblés symboliquement devant le siège de l'APHP. Un comité social et économique s'y tenait pour mettre en place la vaccination obligatoire des soignants. Faible mobilisation, Véronique Julia, à l'appel de la CGT et de Force ouvrière.
Ils se défendent d'être anti-vax, certains disent même être vaccinés. Ce qu'ils dénoncent, c'est bien l'obligation qui leur est faite. À partir du 15 septembre, ils ne pourront plus travailler, ne seront plus payés s'ils n'ont pas au moins leur première injection. Hervé travaille à la PHP depuis 30 ans.
Pourquoi ils ne font pas à toute la population dans ces cas-là, quoi ?
Vous êtes au contact des patients, c'est un peu logique.
Oui, tout à fait, on est au contact des patients, mais dans ces cas-là, tout le monde est au contact de tout le monde. Je trouve ça totalement injuste.
Laissez-nous la liberté de choisir, plaide Joran Jamelot de la CGT. Il appelle les agents à ne pas présenter leur passe sanitaire.
On n'accepte pas ce genre de mesure d'exception qui a prétend à se généraliser et à s'étendre. Aujourd'hui, c'est un passe sanitaire. Demain, voilà, c'est des mesures liberticides, des lois d'exception que nous, on dénonce. Il est inacceptable que des salariés, pour travailler, doivent fournir un bulletin de santé à leur patron.
D'autant qu'il y a quelques mois, renchérit Vincent Martin de Force ouvrière, la direction de la PHP n'avait pas autant d'état d'âme.
Au début, on nous faisait travailler sans masque, ce qu'il n'y en avait pas. Là, ça choquait personne.
Sandrine, aide-soignante, revendique quant à elle le droit d'avoir des doutes.
Les infirmières qui ne sont pas vaccinées aujourd'hui, ce n'est pas des anti-vax. C'est des gens qui veulent qu'on leur propose un vaccin qui a été contrôlé. Qu'est-ce qu'on sait dans 5 ans, les effets que ça aura, par exemple, si vous décidez de tomber enceinte ? C'est ça qui nous pose problème.
Aux hôpitaux de Paris, 75 à 80% des agents ont reçu leur première dose. Il en reste à peu près 20 000 à convaincre.
Et alors, qu'en est-il pour tous les autres salariés ? Le ministère du Travail vient d'actualiser son protocole sanitaire pour les entreprises. Bonjour Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Quelles sont les dernières précisions?
Précisions notamment pour les salariés employés par une société qui les fait travailler dans des bureaux qui ne sont pas les leurs, hein, pour faire simple et pour bien comprendre. Par exemple, les agents de sociétés de nettoyage qui interviennent dans des bureaux de grandes sociétés, qui va contrôler leur passe? C'était encore flou. Le gouvernement précise que ce ne sera pas à l'entreprise de nettoyage dans le cas présent, mais aux responsables de l'établissement qui accueille ses salariés d'effectuer les contrôles.
On rappelle aussi le protocole du pass sanitaire globalement.
Avec la possibilité pour un salarié de poser des jours de congé de RTT à l'amiable avec son employeur dans le cas où il serait dans l'incapacité de lui présenter un pass sanitaire en règle, à l'employeur sinon de lui signifier la suspension de son contrat et d'organiser au bout de 3 jours ensuite un entretien pour examiner sa situation, lui proposer éventuellement une solution de reclassement ou de travail à distance lorsque c'est possible.
Et pour les salariés vulnérables?
Ceux vaccinés notamment, cantonnés à domicile par leur employeur par sécurité jusqu'ici, les personnes en immunodépression sévère, pour ne citer qu'elles, pourront revenir sur leur lieu de travail et bénéficier de mesures de protection renforcées, comme la mise à disposition par exemple d'un bureau individuel. Placer ces personnes pour certaines en activité partielle ou en arrêt de travail sera aussi possible au cas par cas lorsque c'est nécessaire.
Maxime Debs du service Écho de France Inter. Les États-Unis recommandent à leurs ressortissants de ne pas se rendre en France à cause de la hausse du nombre de cas de Covid. Depuis le début de la pandémie, plus de 110 000 personnes sont mortes en France. La Chine, elle, fait face à la crise la plus grave depuis l'apparition du Covid fin 2019 à Wuhan. Le variant Delta explique cette flambée. France Inter, il est 13h11 en Vendée. L'heure est au recueillement ce matin après le meurtre du supérieur provincial des missionnaires Montfortin. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Ce matin, les paroissiens de Saint-Laurent-sur-Sèvre se sont retrouvés un peu plus nombreux que d'habitude pour la messe du matin.
Une cinquantaine de personnes sur les bancs de la crypte, les têtes sont courbées. Face à elles, 5 pères Montfortin, c'est le recteur de la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre, le père Paulin, qui prend le premier la parole, ému. Il compare le père Olivier au saint patron de la commune, Laurent, mort en martyr et célébré le 10 août, aujourd'hui. Parmi les fidèles, Henri, il vient tous les jours à la messe, ce matin avec la gorge un peu plus serrée.
L'émotion est là. C'était un ami et un père. Les prières sont pour lui. Et puis pour tout le monde, et même pour son assassin.
À la fin de l'office, sœur Dorothée range l'autel, cite l'évangile pour se donner de la force.
Cette journée d'hier, c'était comme une catastrophe qui s'était abattue sur toute la communauté. Mais petit à petit, on arrive à intégrer l'événement parce qu'on se dit que c'est quelqu'un qui nous donne l'exemple d'une charité vraiment qui imite Jésus.
À 20h, les paroissiens se retrouvent une nouvelle fois pour une veillée. Ce couple qui parcourt 25 km pour prier dans cette basilique qui sera.
Il y aura beaucoup de prières. Le prêtre qui célébrera, je pense, ou qui animera, il parlera beaucoup de pardon, beaucoup de charité, beaucoup de...
Voilà, pas de vengeance.
Pas de vengeance.
De toute façon, ça règle rien.
L'heure n'est pas à la polémique. Il faut laisser l'enquête se faire, appuie la conférence des évêques de France.
Delphine Evenou en direct de Saint-Laurent-sur-Sèvre avec Lucien Lefebvre. L'homme qui s'accuse de ce meurtre a été interné d'office hier soir sous contrôle judiciaire pour l'incendie de la cathédrale de Nantes. Il était accueilli dans cette communauté. Le ministre de la Justice répond ce matin à la polémique lancée par la droite et l'extrême droite. Si le suspect n'a pas été expulsé, c'est par souci de justice. Message d'Éric Dupond-Moretti sur Facebook. Les mêmes qui dénoncent cette situation auraient hurlé à l'impunité si le suspect avait été éloigné et s'il avait ainsi échappé à son procès. Que s'est-il passé la nuit dernière dans la Loire, à la Talaudière? Un homme de 35 ans a été tué par la police à son domicile. Cet homme était suivi en psychiatrie. Ses proches avaient appelé la police hier soir, le trouvant très agité. À leur arrivée, il aurait brandi un couteau en direction des policiers. L'homme n'aurait pas été bloqué par les tirs de taser. Un policier a ouvert le feu. L'IGPN est saisi. Le domicile de l'enseignante qui avait brandi samedi à Metz une pancarte antisémite a été perquisitionnée hier à Hombourg en Moselle. La jeune femme, membre du Front National au début des années 2010, affichait sur sa pancarte une liste de personnalités avec l'interrogation « qui ?». Loin d'être anodine, Clémentine Vergniaud, cette question renvoie à un mot d'ordre de la sphère complotiste antisémite.
Qui? C'est la question que pose en juin sur CNews Claude Posternak, communicant et membre de La République En Marche, un militaire à la retraite, signataire de la seconde tribune des généraux, qui affirme qu'il existe une meute médiatique occidentale. Qui la contrôlerait? C'est la communauté que vous connaissez bien, glisse le militaire, ciblant ainsi les juifs, ce qui lui vaut d'être visé par une enquête du parquet de Paris. Depuis, qui est un mot d'ordre de l'ultra-droite pour désigner les juifs comme responsables de la pandémie parce qu'ils en tireraient profit. La crise sanitaire est un terreau idéal pour les complotistes antisémites, comme l'explique Rudi Rechtat, directeur de Conspiracy Watch, un site qui analyse les théories du complot.
Des gens qui étaient totalement étrangers à ce genre de représentation, d'idées, en viennent à basculer de ce côté-là en disant « mais finalement, c'est vrai, on a des coupables, des boucs émissaires, des gens qui sont derrière tout cela, etc. » C'est une manière d'instrumentaliser tout ce qui se passe pour ramener vers des territoires beaucoup plus inquiétants des gens qui, a priori, n'étaient pas forcément clients de cela.
Le rapport de la mission de lutte contre les dérives sectaires le confirme. La crise sanitaire a élargi l'audience des conspirationnistes. Un discours minoritaire, mais avec une réelle marge de progression, surtout auprès des jeunes, grâce aux réseaux sociaux.
Et la garde à vue de la jeune femme vient d'être prolongée de 24 heures.
France Inter, le journal de 13h, Anaïs Feugat.
Après l'alerte rouge lancée hier par le GIEC sur l'avenir de la planète et le réchauffement climatique, comment les décideurs envisagent-ils de redresser la barre ? En Australie, c'est surtout on ne change rien et on continue comme avant. Le pays, l'un des plus grands exportateurs au monde de charbon et de gaz naturel, rejette par la voix de son premier ministre conservateur les appels à fixer des objectifs plus ambitieux pour lutter contre le changement climatique. À Sydney, Grégory Pless.
Des feux de forêt aussi dévastateurs qu'au début de l'année 2020, la sécheresse, des inondations et des tempêtes de sable qui pourraient devenir des événements météorologiques courants en Australie pour qui les perspectives dressées dans le rapport du GIEC sont particulièrement inquiétantes. Ce matin, Scott Morrison, le Premier ministre, à la tête d'un pays qui émet par habitant trois fois plus de gaz à effet de serre que la moyenne des pays du G20, a pourtant soutenu le bilan de son gouvernement.
L'Australie fait partie de la solution. L'Australie prend sa part dans cette solution. Et l'Australie continuera à en faire davantage, car nous comprenons ce que cela signifie pour notre propre pays.
Scott Morrison, pourtant, se refuse pour l'instant à engager son pays vers la neutralité carbone d'ici à 2050, et même s'il répète que l'Australie tient et même dépasse les engagements pris dans le cadre de la COP21, les rapports de son propre gouvernement disent le contraire. Aujourd'hui, il a également rappelé son opposition frontale à l'instauration d'une taxe carbone.
Notre méthode, c'est la technologie, pas les taxes pour régler les problèmes.
Il fait là référence à des technologies de capture de carbone ou encore au développement de l'hydrogène, mais en parallèle, il a également lancé un programme de relance économique par le gaz naturel, un hydrocarbure, tout sauf renouvelable. Sydney, Grégory Pless, France Inter.
Des civils qui fuient en masse la plus grande ville du nord de l'Afghanistan. L'étau des talibans se resserre sur Mazar-i-Sharif, alors que l'émissaire américain rencontre la communauté internationale à Doha. Quand des sondes spatiales en route vers Mercure ou le Soleil nous éclairent sur Vénus, direction le cosmos et la sonde japono-européenne Bepi Colombo, partie de Kourou en 2018 pour atteindre Mercure en 2025, elle survolera Vénus tout à l'heure à 15h48 et les scientifiques Sophie Becherel en profiteront pour allumer leurs instruments.
C'est le deuxième survol de Vénus pour la sonde Bepi Colombo. À l'automne dernier, elle était passée à plus de 10 000 km. Cette fois-ci, c'est presque un rase-motte à 550 km d'altitude. Même si ces passages sont opportunistes et non programmés dans le cadre de la mission, la précision est diabolique, comme l'indique Elsa Montagnon, responsable de la mission à l'Agence spatiale européenne.
Là, nos collègues de la dynamique de vol nous ont donné des prédictions. Donc dans le cas de Bepi Colombo, ils s'attendent à un survol à 15h51 le 10 août, avec une précision attendue d'une demi-seconde. Et sur l'altitude, on a une précision d'un kilomètre.
Sept instruments sur les 11 à bord seront allumés, dont le spectromètre infrarouge. Il pourrait donner plus d'informations sur la composition de l'atmosphère de Vénus. Comme Solar Probe et d'autres sondes font elles aussi de brefs passages, cela donne une vue plurielle très intéressante, selon Elsa Montagnon.
On a une série d'instruments qui font des mesures de champs magnétiques, de particules énergétiques, de vent solaire. Donc ça, c'est intéressant parce que ça donne des mesures en plusieurs dimensions, disons. Au lieu d'avoir une seule sonde qui collecte des données en fonction du temps, on va avoir des mesures qui sont prises instantanément à plusieurs endroits différents.
La caméra principale, celle qui dévoilera Mercure en 2025, n'est pas en mesure de pointer cette fois-ci sur la planète Vénus. Mais comme il y a à bord trois webcams en noir et blanc, quelques heures après le passage, une première image devrait arriver sur Terre.
Et Solar Probe, la sonde américano-européenne en route vers le Soleil, avait survolé Vénus avant-hier. Le temps.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
du bleu sur les deux tiers sud du pays, Jean-Michel Golinski.
Ah, effectivement, mais sur la partie septentrionale, plus précisément au nord de la Seine, là, les cumulus beaucoup plus soudés vont donner une ambiance très variable en se ponctuant d'averses plus ou moins modérées cet après-midi. Plus bas, donc, le soleil sera vaillant, avec toutefois, entre l'Aquitaine, le Massif central, le nord des Alpes et le Jura, un risque d'averses et de coups de tonnerre. Et puis ce soir, des orages vont se développer sur les Pyrénées. Les températures proches de 20 degrés le long de la Manche vont en afficher 10 à 12 degrés de plus au sud de la Garonne et près de la Méditerranée, en passant par 22 à Lille, 24 dans la capitale et 30 degrés en Auvergne-Rhône-Alpes.
Jean-Michel Golinski, Météo France.